effectivement trois exposés qui montrent un certain nombre de complémentarités en fait entre les différentes approches historiques, didactiques, sociologiques. Maintenant, je propose de donner la parole à l'assistance.
Oui, moi j'ai été très intéressée par les trois exposés. J'ai quand même l'impression, par-delà les différences, qu'il y a un certain nombre de points communs qui reviennent. C'est qu'on a le sentiment que la didactique, l'épistémologie, l'histoire de la discipline participent toutes trois d'une prise de distance critique vis-à-vis de l'enseignement disciplinaire traditionnel. Et qu'au fond, l'inscription de l'histoire des disciplines dans la formation des enseignants, ça s'inscrit dans un mouvement plus vaste de transformation du regard qu'on porte sur la professionnalité enseignante. L'idée qu'au fond, le professeur d'une discipline n'est pas quelqu'un qui reprend simplement ce qu'on lui a transmis, une tradition pédagogique, mais c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une réflexion critique, de prendre ses distances avec ce que l'institution lui demande de faire. Et j'ai l'impression quand même, alors c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre témoignage, puisque moi je ne suis pas, enfin, je participe à la formation des enseignants, mais depuis peu, je suis jeune débutante, j'ai pas une longue expérience, et c'est vrai que cette question de l'inscription de cette dimension critique dans la formation des enseignants, ça me semble quelque chose d'encore assez contesté, surtout dans une période où l'école française est quand même malade, critiquée dans ses résultats, et où une partie, je crois, de la société fait pression, au contraire, pour que les professeurs mettent l'accent sur l'efficacité de l'enseignement, sur la transmission d'un savoir positif. Et donc, il y a quand même tout un courant d'opinion qui rejette cette distance critique vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des savoirs, de l'introduction des sciences humaines dans la formation des enseignants. Donc, il me semble, là, il y a un problème plus général sur lequel j'aimerais avoir votre réaction. Le deuxième point, c'est aussi, mais là c'est surtout dans l'exposé de Michel Artigue et dans celui d'Annie Brutter, c'est la question de la contribution de l'approche historique à la mise en place à l'amélioration des pratiques d'enseignement. C'était un petit peu quelque chose que vous aviez évoqué avec des exemples empruntés aux mathématiques, donc je serais incapable de les reciter précisément parce que c'est pas du tout ma culture. Mais on voit bien qu'il y avait cette idée que l'histoire pouvait permettre d'améliorer ponctuellement tel ou tel dispositif d'enseignement. Donc ça, c'est aussi un point qui m'intéresse. Simplement, la question que je soulève, c'est dans la mesure où ce sont des champs qui sont encore assez neufs, est-ce que vous envisageriez au fond qu'il y ait pour les enseignants de telle ou telle discipline un certain nombre de points sur lesquels il serait bon qu'ils aient une formation historique parce que ça sera important dans leur enseignement et que ça les rendra plus efficaces? Donc est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un corpus, un certain nombre de points de passage obligés dans telle et telle discipline? Ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser ça à la liberté des professeurs dans les universités qui envisagent de privilégier tel ou tel aspect parce que eux, ça leur paraît important? Ou est-ce qu'on doit tendre vers la constitution d'un corpus de points de passage obligés dans chaque discipline? Bon, pour enseigner telle chose, il faut savoir historiquement comment ça s'est constitué. Donc un peu comment vous voyez les choses là-dessus. Et puis la troisième question, c'est l'impression qu'on a eue, en tout cas, c'est quand on parle de formation, tout de suite on en vient à la recherche, c'est-à-dire comment se fait la recherche en didactique, comment se fait la recherche en histoire, et l'articulation de ces trois approches dans la formation des enseignants, on ne peut la comprendre que si on connaît cet arrière-plan de l'articulation institutionnelle de ces disciplines. Et là encore, j'ai l'impression qu'on est dans une phase encore de flottement et d'incertitude, puisque il n'y a pas encore de territoire commun, de lieu d'échange qui permettrait de constituer un corpus sur lequel, au fond, tout le monde pourrait, dont tout le monde pourrait profiter, une sorte de culture commune, de savoir sur les disciplines dans lesquelles didacticiens, historiens, épistémologues pourraient puiser. Voilà. Alors c'était un petit peu un peu vaste, hein, mais c'est trois grandes questions qu'ont éveillé en moi vos interventions.
Donner des éléments. Ouais.
Répondre, oui, c'est peut-être un peu difficile. Bon, je vais essayer de voir ce que, par rapport à vos trois questions, prise de distance critique, oui, je crois que c'est absolument essentiel. Conflit avec des modes de fonctionnement, avec des courants d'opinion, mais aussi avec des modes de fonctionnement du système éducatif, oui. on est dans un système effectivement où, comme beaucoup de systèmes, et d'ailleurs on n'est pas le seul, mais où tout, on a l'impression que tout vient d'en haut et décidé d'en haut, et que bon, les acteurs sont des exécutants et ont assez peu de possibilités de participer aux décisions. Les enseignants sont pris dans des réformes successives, des changements curriculaires successifs dont les finalités ne sont pas forcément évidentes, avec des mouvements de balancier dans un sens et dans l'autre. Je pense qu'effectivement, c'est de salubrité publique de les aider à développer une prise de distance. Et bon, même si ça rentre en conflit avec des systèmes de valeurs et des fonctionnements usuels. Donc, et nous pouvons y contribuer les uns et les autres, et je crois que c'est extrêmement important. Donc, voilà. Pour ce qui est de la contribution de l'approche historique, c'est vrai que quand j'ai lu ce qui est marqué sur les programmes de CAPES, l'idée, on va pouvoir interroger sur l'histoire et l'épistémologie de la discipline, ça me paraît extrêmement ambitieux. J'ai du mal à imaginer quel type de questions on va pouvoir poser dont on peut dire que nécessairement un étudiant qui prépare y sera passé et sera outillé pour répondre à la question. Donc moi, en venant ici, effectivement, j'attends beaucoup de la discussion sur ces points, parce que bon, il peut y avoir des discours très généraux. Je suis pas sûre que c'est ceux dont les enseignants ont le plus besoin. En dehors de ça, quand on travaille avec des enseignants sur des questions liées à tel ou tel contenu d'enseignement, bon, ben, je pense par exemple aux travaux qui sont sur l'algèbre ou sur la géométrie ou sur l'analyse. Chaque fois, c'est quand même des connaissances particulières. Et nos étudiants, par exemple, du master vont pouvoir suivre certains enseignements les uns sur du master l'office, ou qui seront adaptés pour eux. Ils sont quand même spécialisés sur... Les choses sont différentes suivant les contenus. On ne peut pas imaginer qu'ils vont tous suivre tous ces enseignements qui leur seront proposés. Donc j'ai du mal à imaginer et à voir aujourd'hui la faisabilité pratique des injonctions de l'institution, alors que j'imagine très bien, parce que je l'ai déjà vécu même il y a longtemps justement avec Jean-Luc Verlet dans l'enseignement, un travail effectivement qui permette aux enseignants à la fois de développer conjointement une réflexion didactique et une réflexion historique, mais sur des thèmes précis, avec un travail de projet où on met en œuvre ce questionnement, on le développe, mais où on ne va pas être capable pour autant de répondre dans un sujet d'écrit à une question sur l'histoire et l'épistémologie de la discipline. Ça j'ai du mal à voir comment ça peut s'implémenter. Qu'est-ce que c'était la troisième chose? C'était recherche, formation. Oui, c'est vrai, nous sommes universitaires, enfin, beaucoup. Et donc pour nous, formation et recherche, c'est lié. Et c'est vrai que bon, par exemple, dans le master, nous, professionnels didactiques, il y a une bonne partie dans le professionnel, c'est la sociologie de l'éducation qui a pris la place de choix jusqu'à présent dans le tronc commun par rapport à l'histoire des sciences. Il y est depuis le début avec un fort poids, alors que l'histoire des sciences est rentrée beaucoup plus récemment dans cette UE. Et pour nous, c'est absolument essentiel pour la formation des formateurs, cette introduction à la sociologie de l'éducation. En revanche, vu que les temps sont comptés, dans le master recherche, c'est plutôt la philosophie, l'histoire des sciences et l'histoire des disciplines qui sont présentes. Mais ils peuvent suivre, s'ils veulent, une UE de sociologie de l'éducation. Et je pense quand même, à la fois, tout ce que vous avez dit a beaucoup résonné pour moi, et je me suis dit, et puis en même temps, je me suis dit, il y a ces travaux que je connais pas, que j'aurais intérêt à lire. En même temps, on voit quand même que chaque discipline a ses logiques différentes, ses modes de questionnement différents, ses outillages conceptuels différents. Et pour moi, c'est dans la collaboration, mais il y a déjà des collaborations quand je vois les travaux au sein des réseaux Open ou Reseda. Bon, c'est des réseaux où il y a des sociologues de l'éducation et des didacticiens qui travaillent ensemble. Mais de là à être capable aujourd'hui de faire un programme d'enseignement, ça, j'ai l'impression que nous en sommes loin. Et je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou développer des formes d'activité qui permettent effectivement de rencontrer ces différents questionnements de façon intelligente et productive.
Moi, je voulais juste ajouter quelque chose qui va tout à fait dans le même sens. C'est qu'évidemment, je suis favorable à cette prise de distance critique en formation. Et pour autant, je ne peux que déplorer qu'elle soit très peu intégrée à la formation. C'est-à-dire que, mais je ne parle que pour ce qui concerne l'UFM où j'enseigne, le regard socio-historique sur la constitution des disciplines est inexistant. Évidemment, ça s'explique par l'urgence de la pratique de classe, urgence dans laquelle les étudiants, les stagiaires sont pris, mais je déplore de mon point de vue une déconnexion que je trouve dommageable entre la recherche, moi, et la formation. Voilà. Maintenant, il y a peut-être moyen d'introduire ces questions davantage en formation continue ou plus tard dans le parcours des enseignants, à des moments ils sont peut-être plus réceptifs à ces questions et ces prises de distance critiques qui n'est pas leur urgence en formation initiale.
Oui, moi je vais être encore plus pessimiste, en tout cas pour ce qui est de l'histoire. Moi je pense que ce qui est attendu de cette épreuve, c'est au contraire une mise en conformité avec une connaissance des programmes et surtout pas, au contraire, un développement de l'esprit critique. Bien, c'est mon opinion personnelle et que j'assume, et je prends la responsabilité.
Donc, je vous remercie pour vos trois interventions qui étaient très passionnantes. Par ailleurs, j'avais une question à poser, c'était sur les mots-clés, c'est-à-dire histoire, épistémologie et didactique. Dans aucun des trois prises de parole, j'ai pu identifier effectivement si vous aviez vraiment cerné une différence entre histoire et épistémologie et comment elle se situait. Voilà, c'était la première question que je voulais poser. Et puis, par rapport à ce que disait Michel Artic sur comment évaluer effectivement cette épistémologie du savoir, moi j'enseigne en STAPS, et par rapport à ça, c'est vrai que je suis un peu étonnée de tout ce que j'entends, parce que nous, la culture, elle est vraiment ancrée sur une approche historique de nos disciplines. Donc l'écrit 1 du CAPES, c'est donc permanence et transformation de l'éducation physique dans le système éducatif en France depuis la fin du 19e. Les enseignants et les élèves en éducation physique, éducation des corps, formation des citoyens en éducation physique, valeurs physiques, santé, performance en éducation physique, place et statut des activités athlétiques et des activités de combat en éducation physique. Donc, effectivement, toute la dimension historique, elle est traitée depuis la première année en STAPS, et c'est vraiment une discipline qui est au cœur des enseignements. Quant à la mise en lien entre la didactique, donc l'aspect disciplinaire, et l'histoire de chacune des matières, elle est aussi présente et permanente. C'est-à-dire qu'un cours en danse, une pratique corporelle dansée, elle est associée à une lecture théorique de la dimension dansée qui s'appuie sur toute l'histoire culturelle de la danse, du rapport au corps, à l'espace, au contact, aux énergies, à travers effectivement tout le 18e, 19e siècle, 20e siècle. Donc voilà, bon, c'était pour donner un exemple par rapport à ça. Voilà. On pourra en discuter, bien évidemment. Ouais, il aurait été intéressant qu'il y ait des vrais historiens, parce que moi je ne suis pas une vraie historienne, je ne suis pas aussi... Oui, par contre, sur l'aspect, la dimension de l'aspect critique, c'est-à-dire que tout le groupe des historiens, voilà, Ronald Pin, on va dire, dans le champ des STAPS, est vraiment sur une éthique forte de garantir une dimension critique dans l'analyse des phénomènes. Bon, ça, je pense que là-dessus, il y a un consensus quoi, à l'échelle effectivement de tous les formateurs en histoire des disciplines en STAPS en tout cas.
Moi j'ai un rapport pratique à cette question parce que quand je travaille avec des historiens et quand je travaille avec des épistémologues, c'est pas tout à fait le même type de question et c'est pas tout à fait le même type de travail, mais je ne sais, je dirais que j'ai quand même encore du mal à saisir jusqu'à quel point ceci est dépendant des personnes avec lesquelles j'ai pu travailler et jusqu'à quel point ça traduit au contraire des différences profondes entre épistémologie et histoire, histoire des sciences, un regard épistémologique et histoire des sciences. Mais en ce moment, par ailleurs, je co-encadre une thèse avec Dominique Lecourt, donc là, c'est plus en philosophie des sciences. Et là, je vois à quel point ça m'est facile de travailler avec des historiennes des sciences ou des historiennes de l'éducation. Ça m'a été très facile de travailler avec Michel Serfati, mais je pense aussi parce qu'on partage la même culture mathématique au départ et que c'est d'abord un mathématicien. Autant, je me sens complètement dépassée dans la communication avec la philosophie des sciences. Donc, je me dis que là, il y a des différences.
Oui, je veux bien ajouter un mot par rapport à ça. Il me semble que, dans cette différenciation, en fait, du côté de l'histoire, en tout cas, il me semble qu'il y a la question de l'objet historique qu'on étudie en soi. C'est-à-dire que si on travaille sur des contenus d'enseignement, on peut imaginer que la différenciation histoire des contenus épistémologie est assez, il y a des relations assez fortes qui se nouent. Mais si on travaille davantage par exemple sur des questions de pratique d'enseignement en classe ou des choses comme ça, là on peut penser que c'est plus que les liens à nouer sont peut-être plus complexes entre histoire et épistémologie. Donc il me semble qu'il y a des questions de focale du côté historique, en tout cas du côté épistémologie, je ne sais pas, mais du côté historique, selon la focale qu'on va, ou selon l'angle d'attaque que l'on va prendre, les liens entre l'un et l'autre sont, entre l'une et l'autre, peuvent être plus ou moins forts ou distendus.
Voilà. Oui, je voulais juste intervenir. Moi, personnellement, je suis optimiste. Donc j'espère que c'est pas une conformité au programme qui est attendue sous-jacente à ces prescriptions sur les nouveaux concours. Et ce qui me questionne beaucoup justement par rapport aux futurs jeunes enseignants vers qui, alors cette année j'ai la chance d'avoir 30 heures dans le cadre d'un master donc de formation et préparation au CAPES en SVT. Je dirais que c'est moi ce qui me questionne beaucoup, c'est l'idée de quelle liberté pédagogique. On peut quand même avoir conscience d'une certaine liberté pédagogique par rapport aux prescriptions institutionnelles. Et c'est assez flagrant dans les réactions qu'ils ont dans ces premières heures de cours que j'ai avec eux, parce que je redécouvre ce public. Moi, j'étais initialement plutôt sur les professeurs des écoles. Et disons qu'apprendre à se questionner par rapport à ces prescriptions, il y a vraiment un gros travail à faire avec eux, parce que pourquoi, par exemple, on m'a ressorti avant-hier, la mitose, ça ne se dit plus, mais pourquoi ça ne se dit plus parce que c'est dit dans les programmes, et pourquoi c'est dit dans les programmes. Enfin, il y a tout un rebondissement, et c'est très enrichissant la discussion qu'on peut avoir avec ces futurs jeunes collègues. Donc moi, c'est ça, c'est quelle liberté pédagogique tout de même, avoir parmi cette surabondance de prescriptions.
Je n'ai pas du tout la réponse à votre question, mais je pense que la réponse viendra des jurys. C'est la manière dont les jurys noteront les candidats qui donneront la réponse. Et donc, il faut l'attendre. Et là, la sociologie de l'éducation peut nous dire, on peut rechercher, je ne sais pas, qui fait partie des jurys. Comment devient-on membre d'un jury? Pourquoi? Dans quel but? Etc. Et donc, pour continuer dans la collaboration, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a quelque chose là.
Il y a vraiment des éléments de réponse.
Voilà.
voulez intervenir d'abord ?
Bon, allez-y. Oui, moi je voudrais peut-être apporter un élément parmi des milliers possibles, à la fois sur ce que vous venez de dire, madame, et puis vous, madame, en disant d'abord que je suis extrêmement intéressée par tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Moi, je suis inspectrice pédagogique de lettres sur l'Académie de Versailles, dont le recteur n'a pas dû réussir à sauter dans le même train que moi. Et je le dis avec tout le respect que je lui dois, bien entendu. Je suis par ailleurs, et c'est bien ce qui m'a intéressée quand je me suis inscrite à ces journées, en charge sur le rectorat de Versailles de la formation des maîtres, dossier de la formation des maîtres, de cette nouvelle maquette en cours, donc dans cette espèce d'année transitoire où on a des titulaires qui ont été formés d'une certaine façon ancienne mode, comme on dit chez nous. On est dans l'attente de la suivante. Donc j'observe beaucoup, beaucoup de choses dans les classes, en lettres, hein, je m'occupe du pôle formation lettres. Et par ailleurs, je mène des recherches en histoire de l'enseignement de la littérature. Voilà. Et je suis membre du jury du CAPES de lettres, mandaté expressément par l'inspection générale pour essayer de réfléchir sur cette nouvelle épreuve. Comment on devient... Évidemment, tout le monde ici connaît la réponse. Comment devient-on membre d'un jury de CAPES ? On a un beau soir un coup de téléphone d'un inspecteur général qui vous dit « Vous ne voudriez pas venir travailler avec nous sur cette question, vous ne voudriez pas venir, etc. » La question est surtout de savoir ce qu'on en fait derrière quand on est désigné, si je puis dire. Comment est-ce qu'on se prépare en tant que jury à penser et à entrer dans toutes les questions que vous venez de dire ? Parce que c'est bien ça qui définit là où les questions qu'on va poser aux candidats le jour de l'oral. Et en l'occurrence, sur ces nouvelles épreuves, c'est vrai qu'on a beaucoup de questionnements. L'oral est en juin prochain. Moi, je réfléchis beaucoup, beaucoup aux questions que je vais poser aux candidats. Ne serait-ce que la question du contenu de cette question, mais aussi jusqu'où on les interroge. Qu'est-ce qu'on cherche ? Que veut-on regarder ? Bon. Et en même temps, pour être toute la journée dans les classes avec les enseignants, et notamment les tout nouveaux enseignants, je constate exactement ce que vous venez de dire, madame, c'est-à-dire que on a très souvent à la question « Mais pourquoi est-ce que vous avez présenté cet enseignement, cette notion-là » Alors en lettres, par exemple, je ne sais pas, moi, sur un cours de langue, et Dieu sait que c'est compliqué un cours de langue quand on commence, et surtout quand on a quatre classes, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, par exemple, prononcé le mot discours ? Bon, je fais exprès, évidemment, hein, le mot discours, parce que ça n'est plus dans les programmes. Il ne faut pas dire discours. Il ne faut pas dire discours parce que discours, c'est la grammaire de l'énonciation, et ça n'est plus dans les programmes tels qu'ils sont enseignés, tels qu'ils ont été promulgués en 2009. Ben oui, mais le problème, c'est que si on ne dit pas discours, on dit quoi ? Parce que le discours, c'est le discours. Bon. La réponse des lauréats, mais c'est aussi la réponse des candidats, puisque ce sont les mêmes, hein, mettent en lumière, je ne dis plus parce que c'est interdit, donc le programme a valeur d'interdiction, alors même que dans les programmes est inscrite très explicitement la mention de la liberté pédagogique. Et la liberté pédagogique, ce n'est pas seulement la mise en œuvre des notions, des concepts et des séquences. La liberté pédagogique, c'est aussi la saisie, l'appropriation par le professeur de son propre discours à lui. Ça veut dire que si moi je dis discours à mes élèves, j'ai le droit à partir du moment où je leur explique ce que je veux dire. Sauf que pour pouvoir expliquer ce que je veux dire, il faut effectivement que j'ai une certaine distance par rapport au contenu et par rapport notamment aux notions, et que je sois capable de les mettre en perspective avec l'histoire de l'enseignement et l'histoire de cette notion dans les enseignements. Donc, l'apparition, parce que ça n'est pas une apparition, en fait, ce sont des questions qu'on a toujours posées au concours, hein, mais pas de cette façon-là. La mise en place explicite de ces épreuves-là, qui tiennent compte de l'épistémologie, de l'histoire de la didactique, de l'histoire de l'enseignement, oblige les jeunes enseignants à se poser aujourd'hui des questions qui ne se posaient pas toujours, certains oui, hein, mais d'autres non, et les renvoie à cette articulation nécessaire entre une discipline qu'ils maîtrisent, hein, en termes de contenu, parce qu'ils sont allés à l'université et qu'ils ont ces contenus, et la transmission de ces savoirs-là pour des élèves. Du, tout d'un coup, ils sont obligés de se demander pourquoi on leur a appris discours à la fac et pourquoi ils ne peuvent pas dire discours aux élèves, pour se rendre compte qu'ils peuvent dire discours aux élèves. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ne serait-ce que pour cela, je crois que c'est une attitude réflexive qui est attendue d'eux et que peut-être dans le cadre des épreuves, c'est bien cela qu'on va essayer de regarder. Comment est-ce qu'ils sont capables de se mettre en attitude réflexive par rapport à leur propre projection d'identité professionnelle. Voilà, je voulais juste dire ça, mais je trouve tout ce que j'ai entendu ce matin vraiment passionnant.
Oui, moi je vais intervenir d'un autre point de vue. Je suis formatrice à l'UFM de Lyon et donc Angelina Augier, je travaille en histoire-géographie. Je participe au master histoire-géographie des universités Lyon 2, Lyon 3. Et donc j'ai relu là il y a deux jours. Et bon, je suis aussi chercheuse en histoire de l'éducation et en didactique. Je mène les deux champs, un petit peu dans les mêmes, dans le sillage de Dani. Je me suis repenchée il y a pas plus de deux jours sur l'intitulé du programme du CAPES d'histoire-géographie et des épreuves proprement dites. Et je ne partage pas du tout votre optimisme, je suis plutôt d'accord avec Annie. Je pense que, par exemple, dans le cas de l'histoire et de la géographie, les carottes sont cuites. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Première épreuve, on nous dit que c'est une composition en histoire. Composition en histoire, on nous dit que un des deux sujets, composition en histoire et composition en géographie, un des deux sujets, éventuellement, peut comprendre une approche épistémologique et de l'histoire de la discipline scolaire. Les questions sont des questions vraiment scientifiques, pures, histoire. Bon, je prends un exemple, l'art et le prince du 15e, ce qui est déjà une grosse révolution d'histoire, du 15e au 18e siècle. Ok, moi j'essaye là, concrètement, de chercher un sujet possible. Ben, j'en vois pas. Je vois bien comment on peut intervenir, effectivement, on peut faire intervenir la question d'épistémologie du sujet. Mais comment là-dedans inclure l'histoire de la discipline scolaire, j'avoue que j'arrive pas à trouver de sujet. Je vois pas. Si je prends l'oral, il y a effectivement aussi une épreuve à l'oral, la deuxième épreuve, l'ancienne épreuve sur dossier, où on essaie de garder cette dimension-là. Mais c'est pareil, elle va s'appuyer sur un support disciplinaire. Encore là, on peut peut-être introduire, effectivement, c'est peut-être là qu'on peut l'introduire, mais on l'avait déjà. Donc moi, alors après, il faut regarder la constitution du jury. Bon, le jury qu'on a en histoire est un jury, si on prend la constitution, essentiellement composé d'enseignants-chercheurs qui sont sur des approches disciplinaires. Et ça fait très longtemps. Là, il faudrait faire l'histoire du jury, des CAPES et des jurys des agrégations. Et bah oui. Et je dois dire que les gens, et comme ça s'auto, comme vous l'avez dit, hein, on s'autonome, hein, on appelle le petit copain, ça se passe. Oui, enfin, je m'entends. C'est par affinité intellectuelle et par connaissance, hein, ça se passe comme ça. Bien, la représentation des gens dans le jury d'histoire-géographie, des formateurs IUFM qui auraient pu maintenir une tradition un petit peu didactique dans le CAPES est en train de complètement disparaître. Il n'y en a quasiment plus. Donc moi, je vois vraiment pas comment ça va pouvoir se faire. C'est l'éternel décalage entre le texte officiel, hein, comme en histoire des disciplines, entre le texte officiel et puis la pratique. On a le même décalage. Hein, pratique de l'histoire à l'école primaire, bah, c'est pas tout à fait la même chose que les injonctions ministérielles ou les injonctions des inspecteurs. Donc là, moi, j'ai un peu quelques réticences. Si je prends l'histoire, on pourrait faire aussi... D'autant que nous, on a déjà connu ce genre de choses. Si je prends l'histoire de l'agrégation interne, lorsqu'elle a été créée en 1989. Alors, je suis désolée, je vais nommer des gens, mais bon, c'est assez significatif. Hein. Président du jury, Victor Marbot. Victor Marbot, très impliqué à l'INRP, puisque sa femme était responsable du département didactique des disciplines. Dans le jury, on avait des didacticiens. L'épreuve, les deux épreuves étaient des épreuves très didactiques. Il y en avait. On a changé le jury dès que Victor Marbot a quitté le jury. L'inspection générale a repris la chose en main et a complètement gommé l'histoire, la dimension didactique, qui aujourd'hui, au niveau de l'agrégat interne, est plus que légère. On a eu la même histoire pour le CAPES d'histoire-géographie lorsqu'on a créé l'épreuve sur dossier. Donc je crois que ça tient aussi au nombre, et si vous voulez, au rapport à l'intérieur d'une discipline scolaire entre l'histoire universitaire et la discipline scolaire. Si on prend l'exemple de l'histoire, la didactique de l'histoire-géographie et l'histoire de l'enseignement de l'histoire, c'est pas du tout la tasse de thé des universitaires en histoire. Et je ne crois pas que ça va changer de si tôt. Si on prend la maquette de Lyon 2, Lyon 3, nous avons maintenu contre vent et enfin obtenu de maintenir 3 heures. Et tout ça, je vous dirai après pourquoi, 3 heures une intervention de 3 heures sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire et de 3 heures sur l'histoire de l'enseignement de géographie. Bon, le responsable de la maquette pour ces questions-là, c'est Pascal Clerc qui va intervenir demain. Donc il a réussi à la maintenir. Bon, c'est moi qui vais faire la partie historique. Mais parce qu'on était sur place et parce que nous, en tant que chercheurs et en tant que formateurs, on avait l'impression que c'était absolument nécessaire. Mais la finalité de ces interventions-là pour le concours, moi je vous dis, c'est zéro absolu.